consacré à l'autorité parentale. Je suis avec la psychanalyste Claude Almos autour des entretiens donc, que vous avez menés avec Hélène Mathieu. Ils font l'objet d'un livre, L'autorité expliquée aux parents aux éditions Nil, et vous répondez au courriel des auditeurs qui arrive sur franceinter.com. Claude Almos, l'enfant qui ne serait pas suffisamment éduqué aujourd'hui serait un danger, un enfant en danger, et ses symptômes feraient de lui une proie. C'est ce que vous expliquez en début de livre. Quels sont les dangers auxquels vous faites allusion ?
Alors, c'est les dangers d'une part liés à la politique, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans une tendance à considérer que la délinquance serait, on ne dit pas un fait de naissance, on ne parle pas encore de délinquant né, mais ça revient quand même quelque part à ça. En tout cas, il y a une pente vers ça. Et je n'en
Donc
pas.
Il y aurait quoi? Un déterminisme de la délinquance chez l'enfant? Ce serait génétique?
Attendez, c'est pas compliqué. Je ne sais pas ce qui serait dit. Ce n'est pas dit aussi clairement que ça. Mais il n'y a pas 50 solutions. Ou bien on dit un enfant est délinquant parce qu'il n'a pas, dans son éducation, appris les règles de la vie en commun. Parce que les règles de la vie en commun, ça s'apprend. Un enfant ne naît pas civilisé. Il devient civilisé par l'éducation que les adultes lui donnent. Et on reviendra là-dessus. Mais l'autorité est indispensable parce que ça va contre le fonctionnement initial de l'enfant qui, au départ, n'a envie de faire que ce qu'il a envie de faire.
C'est un petit enfant sauvage, au départ.
C'est un genre de petit enfant sauvage, voilà. Donc il n'y a aucune prédisposition naturelle à l'humanisation. Si on ne l'humanise pas, il reste à l'état sauvage. C'est-à-dire il bricole des trucs dans sa tête. Mais bon, et donc il est éventuellement délinquant. Alors, ou bien on dit ça et on se dit que peut-être qu'on pourrait réparer ce qui n'a pas été fait. Et c'est ce qui se passe, ou ce qui se passait jusque-là dans la justice des mineurs, avec notamment cette ordonnance qui avait été prise à la fin de la guerre, qui s'appelle l'ordonnance de 1945, où on disait, bien sûr, le mineur délinquant, il faut le punir. Mais d'abord, on ne le punit pas comme un adulte, parce que ce n'est pas un adulte. Et d'autre part, il ne faut pas seulement le punir, mais il faut comprendre pourquoi il fait ce genre de bêtises à répétition. Donc, il faut mettre des éducateurs, etc. Il y avait un travail éducatif. Bon, alors, ou bien on dit ça, hein, ou bien on dit tout ça c'est bien joli mais ça va pas et il faut juste punir. Alors s'il faut juste punir, ça veut dire qu'on fait ce qu'on faisait avant la justice des mineurs, c'est-à-dire il y a des siècles et des siècles où on considérait que tout enfant qui était déviant, délinquant mais même déviant, c'était de la mauvaise graine entre autres, et que la seule chose qu'on pouvait faire c'était d'en débarrasser la société. C'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait aucune idée de ce que c'était que le psychisme de l'enfant, la construction de l'enfant, etc.
Évidemment extrêmement dangereux. On le comprend bien.
Et donc ça voulait dire, d'ailleurs ça avait une conséquence tout de suite, c'est que il y a des registres comme ça, des bagnes d'enfants, où on voit que pour le vol d'une saucisse, un enfant est puni de 3 ans de bagne, ce qui nous paraît aujourd'hui absolument abominable, mais qui est logique si on pense que vraiment c'est de la mauvaise graine. Donc plus il sera à l'écart de la société, mieux ce sera. Donc il y a aujourd'hui, alors évidemment, je suis pas en train de prédire l'apocalypse, je dis pas que ça va se faire demain, mais il y a de plus en plus, si on peut prendre mesure après mesure, il y a de plus en plus une tentative de remettre en cause cette justice des mineurs, cette ordonnance de 45, et d'en revenir à l'idée que finalement les délinquants, ça ne serait pas la construction. Donc si c'est
voilà,
pas la construction,
il y aurait une prédisposition génétique.
Alors, il faut bien voir aussi que c'est cautionné par une certaine science, et qu'il y a eu quelque chose qui était cette expertise de l'INSERM, de l'Institut de la Recherche Médicale, qui contre laquelle se sont élevés des milliers de professionnels, de parents, etc. Et bien sûr, j'ai fait partie des signataires pour dire, cette expertise disait qu'un enfant de 2 ans qui fait des colères à répétition, etc., il a ce que cette expertise appelait des troubles de conduite, et que donc il faut vraiment surveiller dès 3 ans ce qui va pouvoir se passer pour lui, parce que potentiellement il est délinquant, on disait même violeur, etc., ce qui est abominable. Bon, ce qui est abominable et ce qui est abominablement stupide, parce que tous les parents le savent, tant qu'un enfant n'est pas éduqué, il fait des colères. Il fait des colères pourquoi?
Parce que l'enfant petit... On voit ce que ça donne d'ailleurs dans des pays comme les États-Unis où on médicalise énormément, de plus en plus, les jeunes enfants qui ont des comportements turbulents.
Voilà, c'est-à-dire que c'est la fameuse hyperactivité, par exemple, où on donne de la ritaline à tour de bras à des enfants, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ils s'agitent, alors que, évidemment, que si on essaye de comprendre pourquoi ils s'agitent et ce qui n'est pas en place dans leur vie d'enfant par rapport à leurs parents, ils s'arrêtent de s'agiter.
Voilà, et ce serait probablement d'ailleurs le déficit d'autorité dont vous parlez dans ce livre. Alors, vous faites surtout la distinction entre l'autorité et la soumission. Ça, déjà, c'est deux choses distinctes.
Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que quand je dis qu'il y a une nouvelle autorité possible aujourd'hui et qu'il faut absolument absolument la mettre en place, c'est pas du tout une autorité qui serait moins méchante que l'autorité d'avant. C'est pas une question de quantité de répression, hein, elle serait moins répressive. C'est vraiment une différence qualitative. C'est-à-dire que très concrètement, autrefois, je l'ai expliqué tout à l'heure, on demandait à l'enfant de se soumettre au pouvoir de l'adulte. Hein, pourquoi ? Parce que. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut tout à fait demander à l'enfant, tout en le respectant, de se soumettre aux règles de la vie sociale. Ce sont des règles qui existent dans toutes les sociétés. Hein, on tient compte de l'autre, on n'agresse pas l'autre, on tient compte, on respecte ses biens, etc., etc. Et ça n'est pas une prise de pouvoir sur l'enfant, parce que l'adulte qui lui demande cette soumission, non pas à lui, mais à la règle, cet adulte est lui-même soumis à la même règle. C'est-à-dire concrètement, si je demande à un enfant de traverser dans les clous et pas au milieu de la rue, eh ben, je lui demande rien d'autre que ce que je fais moi-même et ce que tout le monde fait, et dont on peut expliquer à l'enfant que ça a un sens, parce que évidemment, si on traverse au milieu de la rue, on peut en réchapper de temps en temps, mais pas très souvent quand même. Donc ça a une utilité.
Alors, ce courriel de Catherine, elle nous dit ceci. Hélas, Claude Almos confond refus de la violence éducative et laxisme. C'est ce qu'on appelle non pas seulement le retour de bâton, mais le retour du bâton, ou plutôt de la claque et de la fessée. Élever son enfant sans aucune violence, ce n'est pas du laxisme.
Mais élever son enfant avec autorité, ça peut être l'élever sans aucune violence.
Vous parlez de rapport de force, hein? Alors, qui sont possibles, mais pas de violence, évidemment.
Mais bien sûr, pas de violence. Mais le rapport de force, j'explique bien qu'il est en général nécessaire, mais tout à fait momentané. C'est-à-dire que l'éducation, c'est expliquer à l'enfant un interdit. Par exemple, tu ne peux pas arracher ce camion des mains de ton petit camarade au square, parce que ce camion, il est très beau, tu en as très envie, mais il lui appartient. Donc tu peux lui demander de te le prêter, mais tu ne peux pas le lui arracher et en prime le faire tomber pour être plus sûr de l'avoir. On peut lui dire ça. Expliquer pourquoi, y compris lui expliquer qu'il a des avantages à ne pas faire ça parce que les autres vont bien vouloir jouer avec lui alors que l'enfant qui est violent, personne ne veut jouer avec lui. Une deuxième fois il le fait, eh ben, on va lui réexpliquer qu'on t'a dit que c'était pas possible, tu vois.
Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par rapport de force?
Alors, rapport de force, ça veut dire que si la troisième fois il recommence, il va falloir lui dire cette fois c'est plus possible. Hein, et là, il y a une sanction. Mais la sanction, ça peut être de le prendre par la main et de lui dire nous quittons le square et on y reviendra quand tu seras décidé à te conduire correctement. Exactement. C'est un rapport de force parce que l'enfant, dans un premier temps, ne comprend pas ou n'a pas envie de comprendre, mais d'abord ne comprend pas que ce qu'on fait là, c'est parce que c'est une règle sociale. Ça ne va pas de soi. Pour l'enfant, l'enfant prend, c'est le seul fonctionnement qu'il connaît, ce fonctionnement pulsionnel. J'ai envie de quelque chose, je le prends, quelqu'un m'embête, je le frappe. Donc il ne comprend pas pourquoi, même si on lui explique, c'est dur à ce que ça lui rentre dans la tête, pourquoi c'est impossible dans une vie sociale de faire une chose comme ça. Et d'autre part, comme c'est le seul fonctionnement qu'il connaît, ça n'est pas sans plaisir qu'il le fait non plus. Il y a un certain plaisir à être le roi du square et le roi des camions et à avoir tous les camions. Donc il va falloir lui imposer. Mais lui imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose que le policier qui nous impose de nous arrêter au feu rouge, ce qui n'est quand même pas de la répression. Même dans les sociétés les plus démocratiques, on s'arrête au feu rouge. Et quand je dis sanction, c'est rien d'autre que la contravention qui sanctionne l'automobiliste qui ne s'arrête pas au feu rouge. Et je pense que quel que soit le degré de civilisation des automobilistes, s'il n'y avait jamais de contravention, il ne s'arrêterait jamais au feu rouge. Mais ça n'a rien à voir avec la violence. La violence, c'est ce que j'ai vu l'autre jour dans le métro, par exemple, où j'étais près de la porte, où il y avait une dame qui avait devant elle un tout petit garçon de 3 ans. Et le petit garçon de 3 ans, il a eu envie de toucher, de manipuler le truc avec lequel on ouvre la porte du métro. Ce qui n'avait rien d'extraordinaire. Et je m'attendais à ce que cette dame lui dise « Ah non, tu vois, on ne peut pas faire ça parce que ça sert à ouvrir la porte et la porte est fermée, c'est une sécurité. » Et il a tout de suite pris une claque. Et ça, c'était terrible. Cet enfant s'est mis à pleurer et c'était vraiment violent. Il n'y avait aucune explication.
Et vous parlez aussi de l'humiliation. On y reviendra dans un instant parce qu'il y a façon aussi de faire les choses par rapport à son enfant. Alors, on va écouter Françoise Dolto. Évidemment, hein, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été formée par Lacan et par Dolto avec cet extrait d'une émission qui s'était déroulée sur France Inter, animée par Jacques Pradel, et c'était en 1976.
Qu'est-ce que vous pensez de la fessée, vous?
Ça dépend du style de la maman. On ne peut absolument pas dire que ça soit ni bon ni mauvais, je n'en sais rien d'avance, c'est tout un ensemble. Il y a des enfants qui sont très sensibles, il y a d'autres enfants, si on ne leur donne pas une fessée de temps en temps, ils croient qu'ils ne sont pas aimés. Si on peut, il faut éviter ce qui est une humiliation pour l'enfant. Il ne faut jamais humilier un enfant, ça ne sert à rien. En tout cas, si un papa ou une maman veut sévir avec un enfant, que ça ne soit jamais en public. L'enfant a fait une blague, une chose sérieuse. Bon, on le prend à part dans sa chambre, on le gronde. Si c'est le style que la maman a de l'énervement au bout des mains, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas empêcher ça, ça ne veut pas dire que je sois une mauvaise mère. Il y a des mères qui ne touchent jamais leur enfant et qui sont en parole beaucoup plus agressives que par une fessée. Je ne peux pas savoir.
Voilà, les entretiens de Françoise Dolto, qui sont d'ailleurs publiés sous forme de coffret avec l'INA France Inter et qui sont édités chez Frémo. Votre position sur la gifle ou la fessée, Claude Almos, auquel vous consacrez beaucoup de pages dans ce livre.
Ben oui, je consacre beaucoup de pages parce que c'est quelque chose dont on a
dit. Ça fait débat hein, dans le monde entier aujourd'hui.
Bien sûr, ça fait débat. Moi, j'ai exactement la même position que Françoise Dolto. C'est-à-dire, bien entendu, la gifle ou la fessée n'est pas une méthode d'éducation. Et bien entendu, un parent qui n'aurait pour réponse, comme la dame du métro dont je parlais tout à l'heure, que les coups, est un parent dont on peut dire qu'il est maltraitant. Et je fais partie des gens dans ce pays qui se battent contre la maltraitance. Hein. J'ai fait des films, etc. Et je pense que les enfants ne sont pas suffisamment protégés. Donc là-dessus.
Sauf que est-ce que le fait de donner une fessée ou une gifle, c'est faire de la maltraitance?
Alors, je pense que d'abord, on ne peut pas parler de la gifle ou de la fessée. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel cette gifle ou cette fessée s'inscrit, de ce qui s'est passé là, mais de la relation en général. Mais de toute façon, je dis qu'on ne peut ni préconiser la gifle, ni la diaboliser comme on le fait à l'heure actuelle. Parce que autant je pense que, évidemment, taper à bras raccourcis sur un enfant, c'est un abus de pouvoir, autant dire à un parent qui, parce qu'il était excédé ce jour-là, ou parce que l'enfant avait besoin d'aller chercher une limite que les mots n'arrivaient pas à lui donner, que ce parent a donné une fessée, dire de ce parent qu'il est maltraitant, je pense que c'est vraiment très violent pour le parent, ouais. Et terriblement injuste.
Mais on voit bien que c'est le dosage qui est difficile à trouver pour les parents aussi, et c'est pour ça qu'ils sont aussi perturbés aujourd'hui dans cette autorité, hein, qui est difficile à appliquer.
Les parents ont du mal à trouver le dosage, mais l'enfant, lui, il ne s'y trompe jamais. Et d'ailleurs, quand on écoute les adolescents, a posteriori, ils en parlent très bien. L'enfant ne s'y trompe jamais. Quand l'enfant est gronder, même violemment, je ne parle pas de frapper, et même quand il reçoit une fessée, et que c'est juste, et qu'on peut lui dire après, il y a des parents qui peuvent très bien dire, écoute, je suis désolé, la fessée, tu vois, c'est pas la méthode d'éducation que je préfère, mais là, vraiment, tu m'as poussé à bout, tu aurais poussé n'importe qui à bout, l'enfant ne se sent jamais maltraité.
Donc
ça dépend de l'intuition de la justice.
Alors voilà, ça dépend du contexte familial dans lequel est donnée cette fessée
absolument.
Ou cette gifle.
Mais il n'est pas question de dire que la fessée est une bonne chose, en aucun cas. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit « Ah, vous avez donné une gifle, c'est horrible », et moi j'ai des parents qui viennent me dire ça, « J'ai donné une gifle, c'était atroce », alors que ce sont des gens qui vraiment respectent leur enfant, qui font tout ce qu'ils peuvent, etc. Je pense qu'on inhibe complètement les parents parce qu'on leur donne la peur de leur agressivité. Et du coup, l'enfant se retrouve à pouvoir faire l'escalade du n'importe quoi, de crier, de taper, de claquer les portes, etc. Avec un parent qui n'ose pas intervenir, et c'est vraiment très très mauvais pour lui, ça ligote les parents complètement.
Qu'est-ce que vous répondez, Claude Almos, à cette génération qui a vécu dans une éducation où les claques volaient assez facilement, les coups de règle sur les doigts, et qui vous dit, bah, écoutez, regardez, on a reçu des claques, des gifles très nombreuses, on a bien grandi, on est en pleine forme, on a réussi à avoir un métier, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que s'ils allaient faire le ménage dans des coins de leur tête, ça m'étonnerait, tant mieux par eux.
Ah, c'est une question de ménage pour vous.
Moi, je crois que tant mieux pour eux s'ils s'en tirent bien, hein. Mais s'ils ont l'impression de s'en tirer bien. Mais enfin, on sait que ça a fait beaucoup de dégâts, parce que c'est pas tellement bon, les coups de règle, n'en parlons pas, c'est vraiment de la maltraitance.
Quel dégât.
Mais parce que le problème, c'est pas tant la claque, etc. C'est l'histoire de cette dame, par exemple, à la porte du métro, qui est un truc très banal, tout le monde voit ça tous les jours. C'est que cet enfant, il n'était pas une personne pour sa mère. Si elle lui avait dit, écoute, non, c'est pas possible, etc., il était un interlocuteur, il était une personne à qui on parlait. Et du coup, il se construisait comme une personne avec le sentiment de sa valeur, le sentiment qu'il était un interlocuteur valable. Et que donc, effectivement, elle lui apprenait des limites, mais bon. Alors que là, il a pris un coup comme s'il était, je sais pas, un poteau au milieu du chemin, un animal qu'on n'a pas le droit de maltraiter d'ailleurs, mais qu'on maltraite souvent parce qu'il encombre. Enfin, il était rien, c'est ça qui était ravageant.
Claude Almos, vous vous souvenez de cet homme politique qui a donné une gifle à un enfant il n'y a pas si longtemps que ça?
Je me souviens. Ouais.
Voilà, c'était François Bayrou. Mmh. Eh bien, on l'écoute justement réagir à son acte.
C'est un de ces moments que les Français vivent tous les jours dans leur vie. Des enfants se sont glissés dans le groupe où on discutait un peu fortement. Et puis, en mettant la main dans ma poche, j'ai trouvé la main d'un enfant qui était en train de me faire les poches. J'ai donc fait ce qu'un père de famille fait. J'ai mis une taloche sans réfléchir pour simplement montrer aux enfants ce qui se fait et ne doit en aucun cas se faire. Ce que les Français attendent, et à mon avis à juste titre, c'est que sur des comportements comme ça, on dise « ça suffit ». Ça suffit de vivre avec la peur à chaque instant d'être attaqué ou menacé ou insulté ou dévalisé. Ça suffit de vivre avec des centaines de quartiers dans lesquels aucune autorité publique ne peut entrer. Tout d'un coup, les Français ont dit « voilà, c'est un geste de père de famille, d'instituteur d'autrefois, qui dit simplement, non, voilà la limite qu'on ne franchit pas. et qu'on le dise, mais avec une fermeté telle que ça ne sera plus discuté par personne.
C'était le 9 avril 2002 à Strasbourg, pendant la campagne présidentielle, François Bayrou. Un commentaire, Claude Almos, sur cet acte qui a saisi l'opinion à l'époque, mais pas tant critiqué que ça d'ailleurs. Hein.
Mais oui, mais parce qu'il va à contre-courant de cette idée que notre première auditrice d'ailleurs disait ça, enfin cette idée que si on sort des paroles, on est forcément dans la violence. Je ne suis pas sûre que l'acte de cet homme politique ait été véritablement une violence. En tout cas, si j'avais eu, moi il se trouve que j'ai travaillé pendant 20 ans dans la banlieue nord de Paris avec des garçons et des filles comme ceux sans doute que ce monsieur a rencontré, si j'avais eu à en parler avec lui, je lui aurais dit, mais enfin, réfléchis 3 secondes, est-ce que tu crois que c'était possible ce que tu as fait là? Est-ce que tu crois que la réaction que tu as eue là, tu ne l'aurais pas eue de toute façon? Alors finalement, il t'a donné une leçon qui n'était pas si mauvaise que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui avait spécialement, en arrivant là, envie de taper sur les jeunes qu'il allait rencontrer, tu vois. N'empêche que tu as quand même fait quelque chose qui n'était pas possible. Mais moi, tous les jeunes à qui j'ai parlé comme ça, ou tous les enfants à qui je parle comme ça, ils comprennent parfaitement bien. Et ils ne se sentent pas maltraités.
Ah, visiblement, ce n'était pas du tout calculé. Hein. Ça, c'est moins que plus dur chez François Bayrou, c'est certain. Alors Arnaud nous demande ceci. Jusqu'à quel âge n'est-il pas illusoire de changer le mode d'éducation d'un enfant? Il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur l'âge, selon vous, où on peut encore exercer l'autorité sur un enfant. C'est une question de Claire aussi.
Moi, je pense que, évidemment, plutôt quand on a affaire à des enfants en difficulté, plutôt on s'y prend et mieux c'est. On sait que c'est difficile avec les adolescents. C'est difficile pourquoi ? Parce que quand on vit, un enfant qui vit sans limite et sans repère, c'est comme si on lui demandait de marcher sur la tête d'une certaine façon. Hein. Et donc, il faut bien qu'il trouve le moyen de survivre là-dedans parce que ça le perturbe profondément. Donc, il trouve des jouissances à faire ci, à faire ça, à transgresser. Donc, une fois que ces jouissances-là sont installées, c'est extrêmement difficile de casser ça. C'est-à-dire qu'on a un double problème. On a le problème de l'absence de repères et le problème de la jouissance qui s'est construite là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment essayer. Et d'ailleurs, il y a des enseignants qui, dans les collèges, qui, dans les lycées professionnels, etc., avec des jeunes qui sont justement plutôt jeunes, essayent de donner des repères. Et il y en a beaucoup encore qui sont en demande. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que la position de l'enfant est ambivalente. L'enfant, il refuse les règles. Il refuse qu'on lui mette des limites parce que ça bride son bon plaisir.
Et puis parce qu'il n'est pas né avec les clés pour avoir les règles.
Mais en même temps, ça bride son bon plaisir. Faut bien... Bon, voilà, mais c'est vrai même pour nous adultes. Enfin, il y a des tas de trucs qu'on n'a pas envie de faire et on sait bien qu'en même temps, c'est important. Mais en même temps, l'enfant sent intuitivement qu'il en a besoin. Et c'est pour ça que quand on les lui donne, il ne prend jamais ça pour de l'injustice. Donc, à tous les âges, il y a encore des très grands adolescents qui ont encore cette demande en eux qu'on leur donne une boussole.
Tiffaine Quétalion nous dit comment faire avec un jeune adulte de 20 ans qui n'a jamais eu de limite dans son éducation et qui aujourd'hui, sans être un délinquant, a de nombreux problèmes pour sa vie dans la société, avec par exemple impossibilité de suivre jusqu'au bout un cursus universitaire.
Moi, je crois qu'il faut lui expliquer, si on sait un peu des choses sur son histoire, il faut essayer de lui expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ses parents n'ont pas pu les lui donner, c'est-à-dire ce qu'eux-mêmes avaient vécu dans leur propre histoire qui fait qu'ils n'ont pas pu lui donner ça, et essayer de lui dire, bon, maintenant, si toi, tu veux te donner des limites à toi-même, moi, je suis là et je peux t'aider. Donc, si tu veux, on passe un contrat. Par exemple, très concrètement, tu te lèves le matin, tu mets le réveil, tu vois, au lieu que tu te réveilles juste quand tu te réveilles et que tu sois en retard à la fac tous les matins. On va dire que tu mets le réveil. On va dire que, par exemple, tu t'astreins à faire le boulot que tu as à faire et si tu as besoin d'un coup de main, tu viens me voir. Mmh. Ou si tu as besoin que je te remonte un peu les bretelles parce que tout seul, tu penses que tu vas craquer, eh ben, tu viens me voir. Je pense que quand on veut s'en sortir, quel que soit l'âge qu'on ait, on peut s'en sortir. Encore faut-il susciter ce désir-là chez un jeune adulte.
Alors, cette question d'Éric, après avoir entendu la claque de François Bayrou, il aimerait savoir ce que vous pensez de cette claque donnée par ce professeur d'un collège du Nord très récemment. Suite à l'insulte d'un élève dont le parent était gendarme, qui a porté plainte, d'ailleurs il sera jugé le 27 mars prochain. Il y a une pétition qui circule en ce moment de soutien et de solidarité envers ce professeur.
Moi je crois que c'est un symptôme, cette claque, parce que en fait, pour que ça marche à peu près correctement ou en tout cas moins mal dans les collèges, l'expérience que j'en ai pour aller travailler avec des enseignants, c'est quand vraiment les élèves sont confrontés au fait que chaque professeur n'est pas seulement un individu. Par exemple, mademoiselle Machin, prof d'histoire qui mesure 1m62 et qui pèse 45 kilos, c'est pas parce qu'elle mesure 1m62 qu'elle pèse 45 kilos qu'on peut lui dire n'importe quoi, parce qu'elle est membres du corps enseignant, que donc tous les professeurs sont là avec elle et qu'il y a surtout un directeur dans l'établissement ou un proviseur ou un principal qui est garant de l'ordre et à qui on va rendre des comptes, lui-même devant rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques. Je pense que si ce collège avait fonctionné sur un mode comme ça, immédiatement le principal aurait pu convoquer et l'élève et le professeur, aurait pu dire publiquement, enfin devant les deux, etc., que effectivement le professeur avait fait quelque chose qui n'était pas possible de par sa fonction et que donc il aurait un blâme, mais que l'élève avait provoqué cette exaspération du professeur par quelque chose qui était absolument inadmissible et que l'élève allait passer en conseil de discipline, être exclu.
Mais qu'est-ce que vous attendez du jugement au mois de mars?
Je pense que c'est une aberration, le jugement. C'est une aberration, mais c'est surtout grave pour cet élève parce que c'est comme si on venait lui dire que quand il transgresse quelque chose, quand il transgresse dans la vie, là, la justice est là pour le défendre et pour défendre ses transgressions. C'est anti-éducatif.
Avec un père gendarme.
Mais il faut bien comprendre qu'un élève qui fait ça, c'est pas juste anecdotique. Ça veut dire qu'en tout cas, dans le moment où il fait ça, mais en général, c'est le symptôme de toute une problématique qu'il a, il n'est pas du tout à sa place, ni à sa place d'enfant par rapport aux adultes ou d'adolescents, ni à sa place d'élève par rapport au professeur. C'est-à-dire qu'il considère qu'on est dans la jungle. Si l'autre est plus faible, on peut taper dessus. S'il est plus fort, on s'abstient. Oui. Hein, et c'est très très grave, cette histoire de passage en justice.
Claude Almos, beaucoup de courriels d'enseignants qui ont beaucoup de choses à vous demander. Alors d'abord, Nadia nous dit ceci. Quelles recommandations donnez-vous aux enseignants qui ne sont pas respectés par leurs élèves ni par leurs parents et qui sont parfois dangereux pour la société, actes de violence physique? Merci de ne pas faire de démagogie et de ne pas citer Madame Dolto. Vous avez deux contraintes.
Ah oui. Alors, écoutez, je ne savais pas que citer Madame Dolto, c'était faire de la démagogie. Mais bon, pour moi, c'est
non,
pas
non,
ça.
Non, ne faites pas démagogie et ne citez pas Madame Dolto.
Bah oui, je ne sais pas si Madame Dolto s'est occupée de ça d'ailleurs. Moi, je redis ce que je viens de dire. Je crois que ce n'est pas un problème individuel. D'abord, je pense que bien malin qui va donner des conseils pour se sortir complètement de là, parce que c'est vraiment des problèmes très compliqués à gérer, donc je dis très modestement que je prétends pas avoir la solution. Ce que je sais simplement, c'est qu'on fait avancer les choses quand c'est une démarche collective de l'ensemble des enseignants du collège avec le principal, avec la hiérarchie du collège, et qu'on peut faire des réunions, y compris avec des parents. Je sais qu'ils ne viennent pas tous, mais on peut essayer, qu'on peut faire des réunions avec les élèves, que c'est vrai que si on discute avec les élèves du sens des limites, ils sont souvent dans l'état de, ils ont beau avoir 17 ans, hein, ils sont dans l'état de gamins de 3 ans, à qui on n'a pas expliqué que si on ne faisait pas telle ou telle chose, c'était pas juste une limite inventée par les adultes pour embêter les enfants, que ça avait un sens par rapport à la vie, que ça permettait la vie. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. L'éducation, ça permet de comprendre ça, que les limites, bien sûr, c'est embêtant de les respecter, mais que ça permet la vie en commun. Si on peut faire n'importe quoi dans la société, alors ça veut dire que la société est une jungle, parce que en face, l'autre aussi peut faire n'importe quoi. Donc c'est bien, on tape sur le premier, sur qui on a envie de taper, mais celui qui sort dans la rue et qui a envie de taper sur vous, il tape sur vous. Donc on est en danger permanent. C'est aussi pour ça que les enfants sans limite sont toujours des enfants angoissés.
Ce message de Barbara qui est à Nice, qui est enseignante également. Ce que je remarque, dit-elle, n'est pas que les parents ne disent pas non, mais qu'ils finissent toujours par dire oui. Et ça se traduit en classe par des enfants qui peuvent poser la même question des dizaines de fois, voire toute la journée, car ils ont compris que l'adulte usé finit par dire oui.
Oui, mais je crois que l'adulte finit par dire oui, c'est ce qui fait dire à beaucoup que les parents sont laxistes, ce que moi je ne crois pas du tout. L'adulte finit par dire oui parce qu'il ne comprend pas à quoi il dit oui, au fond. On lui a pas suffisamment expliqué les choses pour qu'il comprenne. Je donne un exemple de la vie courante. Un enfant qui veut pas aller se coucher le soir, qui se relève 10 fois, etc. Au bout d'un moment, les parents sont excédés parce qu'ils ont travaillé toute la journée, qu'ils en ont ras-le-bol, donc ils finissent par laisser l'enfant debout, qui va finir par aller dormir dans leur lit, etc. Quand dans mon bureau, moi ou d'autres, hein, parce que je suis pas unique pour faire ça, on leur explique qu'un enfant qui fait ça, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste qu'il a envie de faire n'importe quoi, c'est que profondément, il remet en cause sa place d'enfant par rapport aux adultes. C'est-à-dire qu'un enfant doit savoir que ses parents, c'est ses parents, mais c'est aussi un couple qui ont une vie de couple, une vie d'amoureux, comme je leur dis, et qu'ils ont besoin d'avoir cette vie de couple. Et c'est ça aussi l'interdit de l'inceste, concrètement. C'est pas seulement un grand mot, l'interdit de l'inceste, c'est ça. Et que donc l'enfant qui se relève, il veut empêcher ses parents d'avoir cette vie de couple, il veut venir dans leur lit qui est le lieu de leur vie de couple, etc. Quand les parents comprennent ça, et que si on permet ça, ça empêche l'enfant de se construire parce qu'il n'est pas à sa place, et que donc il va rester toujours à croire au fond qu'on peut se marier avec son papa, sa maman, ou que ou que voilà, ou qu'on va jamais quitter son papa et sa maman, quand les parents comprennent ça, ils arrivent à dire non parce qu'ils savent à quoi ils disent non et à quel point c'est important. Et dans le livre, d'ailleurs, je donne un exemple. Je dis que tous ces parents qui disent « je n'ai pas d'autorité, je n'y arrive pas », quand il s'agit de donner un médicament, parce que là c'est vital et qu'ils le savent, ils trouvent l'autorité de faire prendre le médicament à l'enfant, même si l'enfant est impossible le reste du temps. Donc c'est bien la preuve que quand les parents sont convaincus, quand ils comprennent de quoi il s'agit, ils arrivent à dire oui. Et moi je crois que la seule chose dans les collèges, c'est qu'on essaye d'expliquer aux élèves le pourquoi du non. Après ils ont envie de comprendre, ils n'ont pas envie de comprendre. Mais au moins on explique pourquoi on ne dira pas oui. Et on peut aussi aider les parents par rapport à ça.
Est-ce que l'autorité naturelle existe selon vous, puisque certains parents doutent de leur capacité justement à en avoir? C'est vrai que certains parents sont moins sûrs d'eux que d'autres, et ça leur pose des problèmes pour imposer aussi une autorité par rapport aux enfants.
Alors je dis dans le livre que l'autorité naturelle c'est un mythe qui fait beaucoup de dégâts et que ça n'existe pas. Il y a des gens plus sûrs d'eux que d'autres parce que dans leur histoire ils se sont construits dans une famille où il y avait de la considération pour eux, on les écoutait, etc. Donc ils pensent qu'ils ont une valeur, ils sont plus sûrs d'eux. Mais même si on n'est pas sûr de soi, on peut avoir de l'autorité à partir du moment justement où on est persuadé de l'importance de la règle à laquelle on demande à l'enfant de se soumettre. C'est-à-dire que ce qui fait autorité pour l'enfant, c'est pas qu'on lui dise « moi, ton père, je serai plus fort que toi, je suis plus fort que toi », c'est qu'on lui dise « écoute, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas pas changer le monde, cette règle-là, elle existe pour tout le monde ». Dans mon bureau, j'explique, tu peux pas taper sur tous tes copains dans la cour de récré quand ils t'embêtent, parce que ton père, s'il sort dehors dans la rue et que le premier monsieur qui lui prend sa place pour se garer, il sort et avec je sais pas quoi, il lui tape sur la tête, et ben on va appeler les policiers, ton père, il va aller en prison. Donc c'est une règle. Donc c'est l'importance de la règle, c'est l'autorité de la règle qui s'impose à l'enfant. Et si l'adulte est convaincu de l'autorité de cette règle et que c'est vraiment vital que l'enfant la comprenne, parce que c'est vrai que ça l'est, vital, en tout cas pour sa vie psychique, ça s'impose à l'enfant. Et c'est ça qui passe pour de l'autorité naturelle.
Alors justement, la place des parents, puisque vous évoquez le père, est difficile également de différencier aujourd'hui les rôles. En quoi l'autorité du père serait essentielle pour les enfants? Parce que c'est ce que vous expliquez aussi dans ce livre.
Alors j'explique que l'autorité du père c'est essentiel, mais c'est pas du tout comme on pourrait le croire, parce que le père aurait une force que la mère n'aurait pas, une autorité que la mère n'aurait pas, etc.
On voit bien que des mères sont capables d'être beaucoup plus autoritaires que les
pères.
Ah mais
absolument,
hein.
Les mères sont tout aussi capables, voire certaines plus capables, donc c'est pas du tout ça. La question de l'autorité paternelle c'est une espèce de dispositif, c'est-à-dire que l'enfant est confronté à sa mère et que l'intervention du père ou l'appel que va faire la mère au père, c'est quelque chose qui va signifier à l'enfant que dans la vie, on n'est jamais deux, mais trois. Ce qui est vraiment l'apprentissage de la vie sociale. Bon, si mon voisin met sa poubelle devant ma porte répétitivement, il y a deux solutions. Ou je lui casse la figure, ce que je suis tout à fait incapable de faire, ou j'appelle la police. Bon, cette instance tierce qui est la police, la justice, etc., dans tous les conflits entre les gens, c'est ce qui permet que ça ne se finisse pas à coup de fusil. La matrice de ça, c'est ce rôle du père qui vient entier, c'est-à-dire investi d'une autorité que la mère accepte dans ce moment-là de ne pas avoir, qui permet à l'enfant de comprendre ça. Et ça a aussi une autre utilité, c'est que ce que probablement la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'une mère pour un petit enfant, elle est toute puissante. C'est-à-dire que les enfants petits pensent les mères tellement toute puissante qu'ils s'imaginent qu'elles peuvent faire les bébés toutes seules, elles ont un gros ventre, elles ont fabriqué le bébé toute seule, qu'il n'y a pas besoin de père. Tant qu'on ne leur a pas expliqué le rôle du père dans la conception, ils s'imaginent que le père, c'est un monsieur qui est là parce que la mère veut bien. Pour faire de la figuration, tout va bien. Bon, voilà. Bon. Et donc, si en plus de ce pouvoir qu'a la mère, de porter l'enfant, de le nourrir, etc., si en plus elle a l'autorité, elle a tous les pouvoirs. Et dans ces cas-là, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est que soit l'enfant ne peut pas la quitter, parce qu'on ne quitte pas un personnage tellement puissant, or grandir, c'est quand même se détacher de plus en plus de ses parents, et notamment de sa mère, et puis qu'il y a aussi la tentation qu'il s'identifie à ce personnage tout puissant, et on retrouve ça dans l'histoire de nombreux délinquants, ils sont devenus tout puissants comme leur mère l'était.
Très vite, Claude Almos, pour les mères justement qui élèvent seules leur enfant, comment négocier cette autorité?
Il suffit de parler un père, ça existe si on en parle. Hein, si on dit à un enfant, ton père n'est pas là, il n'est plus là, ou il n'a jamais été là, mais voilà ce qu'il te dirait s'il était là, voilà ce que tous les pères responsables disent à leur leur enfant, c'est quelque chose qui compte. Et on peut faire appel aussi à des hommes autour, à des amis de la famille, à des membres de la famille.
Et puis ce mail pour terminer, Laurent, je suis enseignante et je constate que le manque de limites que les parents donnent à leurs enfants au cours de l'éducation entrave les capacités d'apprentissage en classe, car il faut d'abord retravailler le comportement avant que l'enfant soit disponible pour engranger des connaissances. L'échec scolaire peut venir plus de ce manque d'autorité parentale que de difficultés intellectuelles.
Mais absolument, et à quoi il faut ajouter d'ailleurs que la scolarité, c'est une série de règles qu'il faut apprendre, on écrit sur la ligne et pas à côté.
L'autorité expliquée aux parents, ces entretiens que vous avez menés avec Hélène Mathieu, Claude Almos, aux éditions Nil. Merci beaucoup d'être passé dans La Tête au Carré.
Merci à vous.